Chapitre 32. Léonie composa le numéro de portable de Johannes à 10 reprises et tomba à chaque fois sur sa boîte vocale. Malgré la brièveté du message, la voix du grand hibou lui vrillait toujours les nerfs. « Qui essaies-tu d'appeler ?» demanda Oral. Cyrian ne ressentait plus pour son ex que des vestiges de sympathie. Il se demandait comment il avait pu éprouver pour elle des sentiments aussi forts. Elle lui apparaissait maintenant dans sa réalité de fille frivole et inconsistante, clone de son propre monde, vision désenchantée. Il n'aurait même pas voulu d'elle comme corps d'emprunt. Elle ne cessait de fixer Léonie avec insistance, essayant sans doute de l'entrevoir dans ses yeux, comme un passager à la vitre d'un bus, mais elle butait sur cette fille noire, cette insupportable fille noire qui l'avait emprisonnée dans sa chair. Parfois, un doute venait troubler le vert lumineux de ses iris. Et si Léonie n'était qu'une aventurière, l'une de ces expertes dans l'art de l'hypnose ou de la manipulation mentale? Peut-être s'était-elle débarrassée de Cyrian et avait-elle inventé un stratagème pour tromper et escroquer ses proches? Pourtant, il y avait ces précisions qu'elle ne pouvait pas connaître sur les tendances sadiques de Johannes, tous ces détails intimes, volés, sordides. J'ai parfois l'impression qu'elle nous croit, et parfois qu'elle ne nous croit pas. Marrant, tu dis nous, comme si nous ne formions plus qu'une entité, comme si tu m'avais déjà absorbé. Attends quelques jours encore. Je n'ai pas l'intention de te trimballer toute ma vie, 21 grammes, c'est lourd. Et puis, j'aimerais bien me retrouver seul avec mes pensées. Je ne demande que ça, sortir, figure-toi.
Pourquoi? T'es pas bien en moi?
Faudrait savoir ce que tu veux.
Je te taquinais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Essayons de contacter ce flic, un commissaire à la PJ. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai rencontré le jour de mon intronisation dans la confrérie, un mec haut placé. Si tu n'as pas son nom ni son numéro de téléphone, je ne vois pas comment. Allons au siège de la PJ. Avec un peu de chance, nous le trouverons sur place. Je suis certain de le reconnaître. Demande à Aurel de t'y emmener. Prends la carte dans le tiroir de la table de chevet, pour l'argent et les fringues. Aurel tica lorsque Léonie lui demanda de l'accompagner en voiture au quai des Orfèvres.
C'est Cyrian qui parle? Il connaît quelqu'un là-bas qui pourra peut-être l'aider. On va d'abord acheter des vêtements. Avec quel fric?
Léonie alla dans la chambre récupérer la Mastercard de Cyrian dans le tiroir de la table de chevet et revint.
Hé! Hey, où tu as pris cette carte?
C'est lui qui m'a dit où la trouver. Il me donnera le code devant le distributeur. Elles s'habillèrent. Léonie garda le t-shirt de Cyrian, enfila le pantalon blanc et les chaussures de tante destinée. Aurel remit sa robe toute chiffonnée. Elles sortirent de l'appartement et se rendirent dans une rue commerçante proche. Léonie tira 300 euros à un distributeur de billets après que Cyrian lui eut soufflé les 4 chiffres du code. Puis elles s'engouffrèrent dans une minuscule boutique de vêtements. Léonie opta pour une tenue pratique, un jean, un polo, un blouson, des chaussettes et des chaussures de sport. Elle dit au commerçant qu'elle gardait tout sur elle et paya en espérant qu'elle aurait assez d'argent.
Et Aurel, elle ne prend rien? Ça ne lui ressemble pas.
Elle n'a rien trouvé à son goût.
Tant mieux, on gagnera du temps. Sa voiture est garée où?
Tu es garée où? Dans un parking souterrain, pas loin.
Gagner du temps.
Cyrian commençait à se sentir à l'aise dans le corps de Léonie. Un peu trop à son aise. Il ne pilotait pas son vaisseau, mais s'y accoutumait. Et le désir de retourner dans son corps d'origine, s'il ne s'était pas encore estompé, perdait de son intensité. Johannes expliquait cette tendance à la symbiose, à l'immersion dans la chair d'emprunt, par l'aspiration fondamentale de l'âme à l'incarnation. Si l'âme, ou la conscience, utilisait le cerveau comme une interface, ce que semblaient prouver les voyages extracorporels, alors elle s'agrégeait spontanément au corps qui la portait, même provisoirement, pour agir dans le champ de la matière. Personne ne savait ce qu'elle devenait après la disparition de son organisme associé, le début d'un nouveau cycle pour les uns, l'anéantissement pur et simple pour les autres. S'était-elle formée lors de la naissance? Était-elle apparue avant? Était-elle immortelle? Toujours est-il qu'elle préférait la cohabitation à l'errance. L'âme de Cyrian, son essence, son moi, consentait déjà à se perdre en Léonie. Les réactions de Léonie avaient été les siennes quand Lucius le Pan s'était enfoncé en elle. Il avait vécu dans sa chair d'emprunt l'invasion, la profanation, la blessure, le rejet, l'humiliation. Qu'avaient vraiment ressenti ses partenaires sous son poids d'homme? Il s'était également montré brutal,
un soudard pressé d'enferrer son épée dans le bas-ventre de son ennemi. Il s'était conduit en conquérant, en maître ivre de puissance. Même avec Aurel, elle n'avait pas toujours eu envie de lui, ployant, docile, gracile, sous son désir impétueux. Il se demandait si Léonie, la fleur saccagée, renouerait un jour avec le désir. Si elle pourrait déployer ses pétales et accueillir un homme sans que le buisson d'épines ne pousse dans son ventre. Il aimerait être celui-là s'il revenait un jour dans son corps d'origine. Non, il n'y avait plus de temps à perdre.
Il leur fallut une bonne demi-heure pour parcourir le chemin pourtant court entre le 6e arrondissement et le quai des Orfèvres, et une demi-heure supplémentaire pour trouver un stationnement. Aurel et Léonie entrèrent dans le bâtiment et se dirigèrent vers l'accueil tenu par deux jeunes femmes en uniforme.
« Bonjour, c'est à quel sujet ?»«
Qu'est-ce que je dis, Cyriane ?»« Qu'on cherche un commissaire dont on a oublié le nom, mais qui travaille à la PJ. Que c'est urgent. »« Elles ne vont pas me demander mes papiers ?»« Peut-être pas, si tu parais sûre de toi. »«
J'ai peur, Cyriane. »«
Je sais. Je le sens. On est plus fort à deux, Léonie. »
« Eh bien, mademoiselle, vous avez perdu votre langue !» s'impatienta une femme de l'accueil.
Léonie expulsa sa frayeur d'une brève et puissante expiration.
« Nous cherchons un commissaire qui travaille ici, enfin, à la PJ, » dit-elle d'une voix aussi ferme que possible. « J'ai oublié son nom, mais c'est urgent. » Les deux femmes se consultèrent du regard. Elles pensaient visiblement avoir affaire à l'une de ces dingues qui se présentaient devant elles du matin au soir. Des femmes qui suintaient l'alcool, les coups, la misère, et qui venaient seulement évacuer leur trop-plein de détresse. Comme on n'était pas des chiens dans la police, on les écoutait patiemment avant de leur demander si elles souhaitaient porter plainte. Elles disparaissaient sans demander leur reste. Pas mal de monde dans la grande pièce baignée de lumière et d'odeurs sales. Des hommes et des femmes prostrés sur leurs chaises, des groupes de policiers traversant l'espace comme des ouragans, cliquetis de claviers, brouhaha, éclats de voix lointains, rugissement des voitures qui démarraient en trombe dans la cour intérieure, grondement sourd du trafic sur le quai. « Et comment voulez-vous qu'on le prévienne si vous ne connaissez pas son nom ?»
Dis-leur que tu l'as déjà rencontré, que tu le reconnaîtras si tu le vois, que c'est une question de vie ou de mort. Léonie répéta mot pour mot les suggestions de Cyriane.
On n'est même pas certaine qu'il soit dans les locaux, objecta l'une de ses vis-à-vis.
Aurel se tenait légèrement en retrait, écoutant Léonie, fascinée par la métamorphose de la jeune noire, par cette assurance soudaine dans laquelle elle décelait l'influence de Cyriane. Dis-leur qu'il sera furieux s'il apprend qu'elles t'ont laissé partir sans essayer de le contacter.
Il sera furieux s'il apprend que vous m'avez laissé partir sans essayer de le contacter.
Léonie parlait d'un ton de plus en plus ferme. Elle s'emparait des pensées de Cyriane comme si elles étaient les siennes. Déployait une énergie farouche qui accélérait la symbiose entre sa conscience et celle de son passager. Danger. Les difficultés mobiliseraient les deux âmes, les rapprocheraient. Elles seraient peut-être fondues l'une dans l'autre avant de retrouver le corps de Cyriane, pétries de leurs deux mois. Pas le choix, la vie n'allait pas sans risque. Ils dansaient sur la corde tendue au-dessus de l'abîme. Les deux femmes palabrèrent un instant à voix basse avant de passer un coup de fil. Quelques instants plus tard, un flic en uniforme au ventre rebondi se présentait à l'accueil.
« Je vais vous conduire dans les étages, mesdemoiselles, mais avant, je dois vérifier votre identité. »
« Cyriane. Cyriane. »
« Dis-leur que tu as laissé tes papiers chez toi. Peut-être que ceux d'Aurel leur suffiront. »
Le flic secoua la tête d'un air buté après avoir écouté Léonie. « C'est que je ne peux pas vous accompagner dans les bureaux si vous n'avez pas vos papiers. Vous n'êtes pas n'importe où quand même !»«
Cyriane !»«
J'ai mes papiers !» intervint Aurel en tendant sa carte d'identité. « Je réponds d'elle. »
Mine de plus en plus butée du flic, ventre de plus en plus gonflé d'importance. La République lui avait confié le rôle de Cerbère. Il s'en acquittait avec toute la férocité dont il était capable.
« Pas question. Ou alors vous venez seul. »«
Mais ce n'est pas moi qui peux reconnaître le commissaire, c'est elle. »«
Elle n'a pas de papier. »
Le ton du flic était devenu menaçant.
« Pas de papier, pas de visite, point barre. »
Il se tourna vers Léonie et consulta du regard ses deux collègues de l'accueil avant de reprendre.
« Je vais vous donner un conseil, mademoiselle. Vu votre, enfin votre, couleur de peau, vous ne devriez pas vous promener sans papier. »
La peur submergea Léonie. Elle perdit de sa superbe, recula de deux pas. Engloutie par un maelstrom de pensées glacées, blessantes, Cyriane suggéra à son corps d'emprunt de reprendre son calme. Mais elle n'était plus en mesure de l'entendre. Elle n'avait plus qu'une idée, fuir, fuir à toutes jambes, s'évader immédiatement de ces murs qui risquaient à tout moment de se refermer sur elle.
« Ça ne fait rien, ça ne fait rien, » bredouilla-t-elle. « Je me débrouillerai autrement. »
Elle courut vers la sortie,
bousculant au passage une femme qui portait sous les yeux, sur les joues et le front, les stigmates d'une bagarre violente. Elle ne pouvait plus se raisonner, ni entendre la voix de la raison. Les terreurs déferlaient. Surgit de la petite enfance, irruption d'une bande armée dans le village, crépitement des fusils d'assaut, fuite éperdue dans la savane, nuée de poussière rouge, éparpillement, peur au ventre, attente solitaire dans un trou, un jour et une nuit. Immobile, hurlement des hyènes. Interloqué, Aurèle resta un moment sans réaction, puis, quand Léonie poussa la porte du bâtiment, elle se lança à sa poursuite. Dehors, l'azur du ciel s'estompait sous les nuages cotonneux. La Seine scintillait en contrebas. Les bateaux-mouches charriaient leur cargaison de touristes extasiés. Léonie parcourut une cinquantaine de mètres sur le trottoir. L'air frais, vif, lui permit de reprendre un peu d'emprise sur elle-même. « Désolée, Cyriane. J'ai cru qu'il allait me... Je n'ai pas pu... » Envoyer une clandestine dans la gueule du loup, pardon, de la hyène, n'était sûrement pas une bonne idée. Demande son portable à Aurèle et essaye de rappeler Johannes. Il ne répond pas, tu ne connais personne d'autre ? Je ne les ai vus qu'une seule fois. Je n'ai pas leur numéro de téléphone. J'ai oublié leur nom. Et ton père ? Lui ? Il n'a jamais fait partie des titans, enfin je ne crois pas. Et puis, hors de question de lui demander quoi que ce soit. Aurèle arriva à hauteur de Léonie en haletant. 50 mètres suffisaient largement à l'essouffler. Elle ne pratiquait la marche qu'à l'intérieur des grands magasins. Il y a peut-être une solution. Les administrateurs de l'EESS. Certains d'entre eux sont des membres de la confrérie. S'ils ne savent pas où a été déménagé le translateur, ils pourront au moins nous donner des noms, des contacts. Dis à Aurèle de nous emmener à... Hé ! Quoi ? Devant toi, regarde ! Deux hommes marchaient dans sa direction, l'un en costume cravate et l'autre en blouson de cuir. L'homme en costume gris, c'est lui, le commissaire en question.
Tu es sûr ?
Sûr et certain, aborde-le.
Qu'est-ce que je lui dis ?
Prends-le à part et raconte-lui que tu es envoyé par un titan. Léonie attendit qu'il passe près d'elle pour s'adresser à l'homme en costume.
« Monsieur ? Commissaire ?»
Le commissaire s'arrêta et la fixa d'un air interrogateur, cheveux bruns, élégants, yeux sombres et perçants.
« Est-ce que je peux vous parler seul à seul ?» Pendant quelques secondes, l'homme continua de l'examiner sans qu'une expression altère ses traits, puis il fit signe à son accompagneur de l'attendre un peu plus loin.
« N'ai pas beaucoup de temps, mademoiselle. »«
Je suis envoyé par un titan. »
L'homme inspecta les environs d'un bref regard d'œil circulaire et revint planter ses yeux dans ceux de Léonie. Aurèle essayait de capter des bribes de leur conciliabule, mais les vrombissements des voitures qui fonçaient sur le quai écrasaient tous les bruits. « Qui ?»«
Cyriane. »
« Dis-lui mon nom et ajoute mon nom de titan, Prométhée. »«
Cyriane. Prométhée. »
Les traits du commissaire se durcirent. « Comment connaissez-vous l'existence des titans ? Il vous en a parlé ? Dis-lui que je suis actuellement ton passager. » Le translateur a changé de place et que je voudrais savoir où il se trouve pour récupérer mon corps d'origine.
Alors, quel est le problème?
Il est mon passager. Le translateur a été déménagé, il voudrait savoir où il est pour récupérer son corps d'origine.
Le commissaire marqua sa surprise d'un petit haussement de sourcils.
Qu'est-ce que... Mon Dieu!
Il baissa encore la voix. Ça fait combien de temps qu'il est en vous?
2 jours. Peut-être 3.
Il communique avec vous ?
Depuis le début.
Le commissaire demeura un temps plongé dans ses réflexions, les yeux rivés sur le trottoir. Attendez-moi là. Il s'approcha de l'homme au blouson de cuir, tint avec lui un bref conciliabule, puis revint vers Léonie. Suivez-moi.
Je suis accompagné, fit Léonie en désignant Aurèle. Un voile de contrariété glissa sur les yeux sombres du commissaire.
Elles viennent aussi.
Puis, tandis que l'homme au blouson de cuir s'éloignait dans la direction opposée, il les entraîna vers l'hôtel de police.
« Ils n'ont pas voulu me laisser entrer parce que j'ai oublié mes papiers », dit Léonie une dizaine de mètres avant la grande porte vitrée. Le commissaire eut un petit sourire que Cyriane jugea inquiétant. « Pourquoi inquiétant ?»«
Je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance à ce mec. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Pas grave, mademoiselle, je suis meilleur des passeports. »
Le commissaire introduisit les deux filles dans le hall d'entrée. Les femmes de l'accueil et le cerbère, qui était resté près d'elle, le ventre gonflé d'importance, les regardèrent passer avec dans les yeux quelque chose comme de la surprise et de l'effroi.